Bien, bonsoir à tous, il est 18h30. Nous allons démarrer ce conseil communautaire. Très heureux de vous retrouver en cette rentrée dans cette assemblée. J'ai la liste, elle est ici, pardon. Madame Marie-André Altier. Madame Laetitia Arnaud.
Présent.
Monsieur Christian Ozas.
Présent.
Monsieur Pierre Avon. Monsieur Jean-Marie Blanc.
Présent.
Madame Marie-Claude Bompard. Madame Sylvie Bonifaci est excusée et a donné pouvoir à Monsieur Flaugère. Madame Françoise Bouclet. Madame Marie Calero. Madame Laure David-Giton est excusée et m'a donné pouvoir. Laurence Desfonds-Fargeon. Monsieur Hervé Flaugère. Monsieur Juan Garcia. Pardon, je vais vous chercher. Monsieur Jean-Louis Grappin est excusé et m'a donné pouvoir. Monsieur Jean-Marc Garinos. Madame Myriam Gutiérrez. Madame Florence Jouve-Lavolée. Monsieur Jean-Pierre Lambertin. Monsieur François Lucas est excusé et a donné pouvoir à Madame Cathy Ricard. Monsieur Jean-Yves Maréchal. Monsieur Denis Mossy. Monsieur Christian Perron. Monsieur Joël Racamier est excusé et a donné pouvoir à Madame Françoise Bouclet, Monsieur Claude Raoux, Madame Cathy Ricard,
présent.
Monsieur Madame Bruna Romanini, pardon, est excusé et a donné pouvoir à Madame Henri-André Altier, Monsieur Benoît Sanchez,
présent.
Madame Anne-Marie Souveton,
présent.
Madame Virginie Vicente,
présent.
Monsieur André Vigli,
présent.
Et moi-même. La première question, c'est le secrétariat de séance. Conformément au Code général des collectivités territoriales, il est proposé à l'Assemblée de désigner son secrétaire de séance. Et il est proposé pour la majorité, Madame Laurence Desfonds-Fargeon, qui s'abstient. la Ligue du Sud, qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. Question numéro 2, il s'agit de l'approbation du procès-verbal du 13 juillet 2021. Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui s'abstient ? La Ligue du Sud, qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. Question suivante, il s'agit du rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la communauté de communes Rhône-Lès-Provence. Et je suis d'ailleurs très heureux de reprendre la rentrée avec ce rapport de la Chambre régionale des comptes qui porte sur l'exercice de 2014 à nos jours. Vous avez l'ensemble de la délibération qui est prévue et qui est présentée comme telle, et nous aurons l'occasion d'en débattre. Je veux ici, pour lancer le débat, lire la synthèse du rapport d'observation définitive, ainsi que les précisions de la Chambre. Le contrôle des comptes et de la gestion de la communauté de communes Rhône-Lès-Provence a mis en exergue la faible intégration communautaire de cet établissement public de coopération intercommunale entre 2014 et 2019. Dans un premier temps et jusqu'en 2016, seules quelques compétences ont été exercées, comme la restauration collective ou la commercialisation d'une zone d'activité. En revanche, aucune des 15 autres zones d'activité gérées par les communes n'a été transférée, alors même que la principale compétence intercommunale concernait le développement économique. Dans un deuxième temps, depuis l'entrée en vigueur en 2017 de la loi NOTRe, de nouvelles compétences obligatoires ont été transférées à l'intercommunalité, aménagement de l'espace, développement avec la gestion des offices de tourisme, aire d'accueil des gens du voyage, collecte et traitement des déchets et gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, la compétence GEMAPI. Aujourd'hui encore, et en dépit de ces nouvelles compétences, le fonctionnement de l'intercommunalité est caractérisé par une logique de guichet qui convient aux communes membres, puisque d'une part, elle leur redistribue une part importante des impôts qu'elle perçoit par le biais de la dotation de solidarité et des fonds de concours, et d'autre part, les commissions locales d'évaluation des charges transférées ont minimisé le coût effectif des transferts de compétences, ce qui, au demeurant, est irrégulier. Par ailleurs, et au vu du contexte dans lequel s'est déroulé le transfert de certaines de ses compétences, l'intercommunalité a massivement recruté pour pouvoir exercer ses nouvelles missions, un agent recruté pour un agent transféré, en plus des recrutements pour les missions de support. La montée en puissance de l'intercommunalité s'est donc traduite par une augmentation significative de ses charges à caractère général, plus 17,8% par an en moyenne depuis 2017, et en particulier de ses charges de personnel, plus 27,2%. La situation financière de la CCRLP reste néanmoins saine grâce à des recettes confortables liées à son tissu économique avec la présence du site nucléaire du Tricastin sur son territoire. Les fonds thésaurisés durant les trois premières années du mandat, 23 millions d'euros, soit l'équivalent d'un an de fonctionnement, ont été presque tous utilisés sur les trois années suivantes, permettant d'investir bien au-delà de la moyenne nationale des communautés de communes de strates démographiques, 182 euros par habitant contre 93, sans recourir à l'emprunt. Aujourd'hui, le coefficient d'intégration fiscale de la CCRLP qui a progressé en passant de 22,5% à 28,8% reste aujourd'hui encore très inférieur à celui des communautés de communes qui est de 37,3% en moyenne. La Chambre a procédé à deux recommandations à l'issue de son contrôle. La première porte sur la formalisation dans la comptabilité de l'EPCI et le transfert des biens des communes puisque, vous le savez, les procès-verbaux de transfert n'avaient pas été établis puisque la CLEC ne se mettant jamais d'accord, les PV n'avaient pas été faits et donc du coup ils n'avaient pas été formalisés dans la comptabilité. Et enfin, la deuxième recommandation sur la conformité aux dispositions de l'article 33 de la loi 84-53 porte sur des dispositions statutaires relatives à la fonction publique modifiées en produisant chaque année le rapport social unique après la période transitoire du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022. Voilà pour la synthèse de ce rapport de la Chambre régionale des comptes. Chers collègues, avez-vous des observations ? Madame Calero.
Oui, la synthèse faite par la CCRLP est à charge contre la ville de Bolène. Sauf que les élus bolénois vous ont alerté pendant ces 12 années sur tout ce qui est pointé aujourd'hui par la CRC. Voici quelques extraits du rapport qui vont remettre les choses au clair. Pour le SCOT, depuis sa création, la CCRLP était compétente pour participer à l'élaboration du SCOT. La CCRLP aurait pu être compétente en matière de PLU, mais les communes de Bolène, Mondragon et Mornas se sont opposées. Je croyais qu'il n'y avait que Bolène qui ne voulait pas transférer les compétences d'ailleurs. Ce n'est qu'en 2017 qu'un syndicat mixte est créé. Sur ce point, la commune de Bolène a été contrainte de demander 4 dérogations. Pour la ZAC Pan-Europarc, la délibération du conseil communautaire autorisant son président à signer l'acte notarié ne mentionnait pas l'avis de la direction de l'immobilier de l'État, la DIE. Cet acte administratif était donc irrégulier. Or, les seuls avis de la DIE présentés par la CCRLP sont ceux sollicités par la commune de Bolène. La CRC souligne encore vos carences. Pour le tourisme, la taxe de séjour perçue par la CCRLP est inférieure à celle de Mornas. Avant transfert, 27 000 euros contre 40 000 euros. La Chambre invite la CCRLP à faire un travail d'information et de contrôle au niveau des hébergeurs. Le coût net de fonctionnement hors subvention est en moyenne de 260 000 euros 2 ans après le transfert, alors qu'il était évalué à 86 000 euros par les communes. Ah, l'intercommunalité ne récupère pas le niveau de ressources présenté par les communes. Votre réponse a été « une période d'ajustement a été nécessaire ». La CCRLP s'engage pour 2021. Une période d'ajustement de 5 ans. Et nous verrons bien en fin d'année si cela a été fait. Pour les déchets, sur votre magazine, vous avez écrit « Les élus locaux se sont engagés à ne pas augmenter le montant de cette taxe ». Que dit la Chambre ? Le taux de la TOM est différent pour la même prestation. Ceci est contraire à l'égalité de traitement. Pour les bornes électriques, en 2015, création de 10 bornes électriques. Or, comme les statuts de la CCRLP ne mentionnent pas précisément la gestion des infrastructures, l'installation est remise en cause par la ville de Bolène. La Chambre considère que l'intercommunalité aurait dû vérifier la faisabilité de ce projet. Le PCI n'accompagne pas la préparation des prévisions du budget primitif d'une lettre de cadrage, acte majeur permettant de communiquer aux services gestionnaires. Alors effectivement, j'ai pu me rendre compte en commission environnement au mois de juin que les services et la vice-présidente n'étaient pas informés et consultés pour le budget alloué aux panneaux de signalisation des sentiers. Cette dépense n'a pas été prévue alors qu'elle était nécessaire. Pour le DOB, suite au non-respect de la réglementation, les budgets primitifs 2017 ont été annulés par le tribunal administratif suite à la requête de la ville de Bolène. Rattachement des charges. Gestion courante 2018 de la CCRLP clôturée par un résultat de fonctionnement déficitaire. Des charges relatives notamment aux engagements contractuels des traitements des déchets et déchetteries ont été occultées. Engagement financier. Concernant la ZAN Notre-Dame, la Chambre regrette l'absence de délibération justifiant les versements de la part du budget principal. Les charges à caractère général. Une surévaluation des prévisions budgétaires de 26% a contribué à une dérive, ce sont les mots de la Chambre, hein, à une dérive de ses dépenses de 45% en 2 ans. Les charges de personnel, et là je vais vous citer qu'un petit paragraphe, la Chambre considère que la CCRLP a manqué de vigilance lors de la mise en place du régime indemnitaire, invite le PCI à le faire évoluer dans un délai raisonnable. Qu'entend-on par délai raisonnable à la CCRLP ? Et voici encore une irrégularité. Ce que je viens de vous lire sont des extraits issus du rapport de la CRC. J'espère que vous n'oserez pas me contredire, car ce sont les propos mêmes de la CRC que vous remettrez en cause. Vous pourrez constater qu'il y a beaucoup d'irrégularités sur la forme, et qu'en droit, Madame Desfonds ne dira pas le contraire, la forme prime sur le fond. c'est qu'au tribunal administratif, les juges regardent d'abord la forme, ce qui fait qu'une délibération peut être annulée, ce qui a été le cas pour les budgets. Voilà. En conclusion, vous auriez dû vous abstenir de mettre en cause la ville de Bolène, car ce n'est pas elle qui est responsable de toutes les irrégularités pointées par la CRC.
Y a-t-il d'autres interventions, Madame Bonpin?
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, vous avez une lecture. On ne pouvait pas s'attendre à autre chose, tout à fait partiale et tout à fait condamnant, comme l'a dit Madame Calero, la ville de Bolène, alors que quand on lit, mais il faut le lire, encore faut-il le lire, je ne sais pas si tout le monde l'a lu ici, certains j'en suis sûre, d'autres moins, mais il y a quand même le mot irrégularité souvent mis, illégalité, rupture d'égalité, c'est quand même pas mince. Alors, votre satisfecit que vous octroyez, vous allez voir à ses limites, et des grandes limites, graves limites. Alors, moi je dirais que ce soir j'ai deux sentiments. D'abord, l'immense tristesse de voir que vous êtes resté à cette place, parce que malgré les budgets annulés, parce qu'il y a eu plusieurs budgets annulés ici, je le rappelle, et le rapport assassin que vient de nous remettre la Cour des comptes, mais j'ai quand même une satisfaction. Si, vous allez voir, riez, mais vous rirez moins après. Les juges reconnaissent notre analyse et l'ensemble de ce que nous avons dénoncé durant 6 années de mandat. Alors j'invite chaque élu, mais je pense que ça a été fait, pour certains j'en suis sûre, et le public et les journalistes, à aller lire directement le rapport. Il faut le lire, parce qu'ici vous n'entendrez que une soupe onctueuse, mais une soupe quand même. Et c'est tout autre que le résumé que vous en avez fait et de rigolement que vous avez d'ores et déjà, parce que je serais à votre place, je ne rirais pas.
Vous y êtes.
Alors, lorsque la CRC a contrôlé la ville de Bolène, le rapport a été excellent, mais vous n'avez eu de cesse que de le salir. Aujourd'hui, comme Marie Calero, je n'extrairai que les phrases de la CRC, et elles sont significatives. Aujourd'hui, votre rapport, il est accablant. Et plutôt qu'un commentaire, je vais citer, comme je viens de le dire, les propos même des juges, ce sont des juges, pour que chacun comprenne bien la gravité des enjeux. Dès l'introduction, à la page 4, ce rapport est un désaveu cinglant. Je cite « Un agent recruté pour un agent transféré, en plus des recrutements pour les missions support. Vous avez créé le double de fonctionnaires payés par l'impôt pour exercer les mêmes missions. » C'est écrit, hein, chacun peut le contrôler. Je cite encore la Cour, « La montée en puissance de l'intercommunalité s'est donc traduite par une augmentation significative de ses charges à caractère général, plus 17,8% par an, plus 17,8% par an en moyenne depuis 2017, et en particulier de ses charges de personnel, plus 27,2%. Vous pouvez retrouver les chiffres, ce n'est pas des calculs, ce sont les chiffres mis en avant par la CRC. Sur les traitements et la collecte des déchets, et je cite, c'est la page 17, la CRC dénonce le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères comme contraire à l'égalité de traitement des usagers devant le service public. Je finis la citation. En effet, on a pu voir que les taux de prélèvement étaient différents selon qu'on habitait à tel endroit ou à tel endroit, à Bolène en particulier, pour le même service. Ça s'appelle une rupture d'égalité devant la loi. C'est une rupture d'égalité. C'est un scandale parce que c'est encore les Bolénois qui ont payé et qui ont payé chèrement. Sur la prise des compétences par la CCRLP, les juges sont là extrêmement sévères également. Page 24. Tout transfert de compétences entraîne une hausse importante de son coût pour la collectivité, la CCRLP bien évidemment. je cite les chiffres, hein, sur la collecte et le traitement des déchets, plus 14,6%, soit 400 000 euros de hausse. 400 000 euros de hausse. C'est pas de la bonne gestion. Sur les services culturels et sportifs, plus 9,7% en un an, soit 50 000 euros de hausse en un an. 50 000 euros de hausse. À peine prenez-vous une nouvelle compétence qu'elle coûte déjà beaucoup plus cher aux contribuables, et pourtant, les communes ne semblent pas très satisfaites, on peut le voir depuis quelques semaines, par votre gestion. Page 26, la Chambre constate donc que toutes les décisions prises sur cette base sont irrégulières. Toutes les décisions prises sur cette base sont irrégulières. C'est le mot de la Chambre. Il est question ici de la manière dont la CLECT a travaillé. CLECT, dont Bolène a été exclue de la présidence et de la vice-présidence pour que vous puissiez faire vos petites affaires. Heureusement, la Chambre régionale des comptes s'y penche et voit que toutes les décisions prises à partir de cette CLECT sont irrégulières. Vous pouvez y aller, hein, page 26. Page 26. Nous allons maintenant parler de votre sincérité. L'un des principes budgétaires est la sincérité. Et là encore, le rapport est extrêmement sévère, comme nous l'avions pointé également à l'époque. Page 29. Les taux d'investissement de la collectivité est quasiment nul. 8% en 2015, 5% en 2016, après deux années de gestion. Quelle est la sincérité d'un budget que vous n'exécutez qu'à 5% en investissement? La dépense la plus importante, et on le sait bien, et les maires qui sont présents ici le savent bien, pour l'avenir important, pour l'avenir des communes. Sur la forme, la Cour exprime des difficultés pour procéder à ces contrôles. C'est aussi, avec autant de personnel, j'ai du mal à comprendre. La Cour exprime des difficultés pour procéder à ces contrôles, au contrôle qu'elle a mené pendant quelques mois, notamment sur la comptabilité des engagements. Je cite, « La qualité des fichiers n'a pas permis d'effectuer ce contrôle. La qualité des fichiers n'a pas permis d'effectuer ces contrôles. » À Bolène, on nous a demandé 1200 fichiers en 3 semaines. On n'a pas eu un reproche sur un seul fichier. Vous, ils n'ont pas pu faire leur travail parce que les fichiers étaient mal faits. Voilà, donc les difficultés, je viens d'en parler. Page 29, toujours. La Cour pointe un résultat de fonctionnement déficitaire, comme nous l'avions dénoncé, je pense que les élus qui étaient présents à l'époque s'en souviennent, en 2018. Un déficit, donc, en 2018. La Cour présente votre chance, celle d'avoir une fiscalité très importante grâce au site nucléaire. Elle le décrit parfaitement. Elle le décrit parfaitement. Seul fait qui a évité la banqueroute de la CCRLP, c'est elle qui le dit aussi. Elle ne parle pas de banqueroute, mais elle parle du fait que si vous vous en êtes sorti, c'est parce que vous aviez une grosse rentrée fiscale, ne serait-ce qu'avec Areva. L'excédent est passé, ça c'est la Cour qui le note, l'excédent est passé de 6,9 millions d'euros jusqu'à son point critique de moins 319 000 euros en 2018. Ça, tout le monde peut le vérifier, page 32. On a un excédent énorme, vous êtes passé à un déficit. C'est vous qui êtes dans le rouge, c'est vous qui étiez dans le rouge, pas nous. Vous êtes trompé de budget. Vous nous avez souvent dit que les charges augmentaient du fait du transfert des compétences. Apparemment, votre baratin n'a pas séduit les juges, puisqu'il dénonce le fait que les dépenses augmentaient de 20,5% par an avant le transfert des compétences. Plus 20,5% par an avant le transfert des compétences. Alors bien sûr, vous allez, comme vous l'avez fait pendant, mais c'est votre faute, hein, vous m'avez donné des ceci, des cela, mais c'est faux. C'est faux, regardez, la Cour le dit, 20,5% par an avant les transferts. et je continue, ça n'est pas tout. Tout est noté, hein, page 32, vous pouvez tourner vos documents. Si les Bolénois sont intéressés par la défense des Bolénois, ils peuvent peut-être fouiller. La Chambre considère, voilà le plus lourd, c'est, je cite la Chambre, hein. La Chambre considère que les charges, à caractère général ne sont pas maîtrisées. Vous ne maîtrisez rien, ni sur la forme, ni sur le fond. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre. Je répète, la Chambre considère que les charges à caractère général ne sont pas maîtrisées. Pas maîtrisées. En effet, plus 186% des frais d'honoraires, plus 186%, plus 307% de frais divers, ce sont les chiffres de la Chambre, hein. Plus 307% de frais divers. Alors, c'est pas frais divers, alors j'ai lu que c'était là, le câble, enfin, la haute définition, enfin, tout ce que vous avez, alors que le téléphone, alors qu'à cette époque-là, les tarifs baissaient, justement. Plus 87% de frais de télécommunication, plus 87%. Alors, vous justifiez ça en disant, mais c'est le personnel qui a augmenté. Il téléphone, mais pourquoi il téléphone? C'est un personnel. Il t'a besoin de téléphoner autant? Enfin, je ne sais pas, c'est beaucoup plus que la ville de Bolène. Alors, 87% de frais de télécommunication, comme je disais, les tarifs étaient bas à l'époque. La Cour dénonce une dérive de 45% des dépenses de fonctionnement. Il parle d'une dérive de 45%. Et là, on arrive à l'apothéose de ce rapport, les charges de personnel de la page 34. Alors, je pense que vous en avez tous bien pris connaissance, bien évidemment, puisque je vois des ricanements, des fois, pendant que je parle ou que mes collègues parlent, beaucoup sur ces rangs ricanent, pensant que nous disons des bêtises. Alors, je pense que tout le monde a eu à cœur d'ouvrir ce livre et d'en prendre connaissance. Et je lis, je cite, à l'instar des charges à caractère général, ces dépenses ne sont pas maîtrisées et ont augmenté en moyenne de 16,8%. Ni maîtrise des charges à caractère général, ni maîtrise des frais de fonctionnement. En 2016, la collectivité qui comptait 49 agents a recruté 21 nouveaux agents. 21 nouveaux agents. Avant même le transfert de compétences. Et les personnels que nous avons, nous, les villes envoyés. Ainsi, le personnel a augmenté de 120 agents, dont 52 seulement sont issus des transferts. 120 agents, alors que 52 viennent des transferts. Alors, tout ça, encore une fois, hein, j'ai plaisir à le redire, ce sont des chiffres de la Chambre régionale des comptes, hein, c'est pas les miens. Et là, j'aimerais, souligner cette phrase. Après le transfert de 2017, la CCRLP a recruté un agent pour un agent transféré, doublant ainsi le coût des transferts en matière de charges de personnel. Un agent pour un agent transféré. Et il souligne bien, doublant ainsi le coût des transferts en matière de charges de personnel. Sur l'absentéisme, il était de 12 équivalents temps plein en 2014. Fin 2018, il se chiffre à 28 équivalents temps plein. Cela démontre d'une part que les conditions de travail à la CCRLP ne sont pas bonnes, mais ça, on en entend parler un petit peu partout dans la ville, y compris dans des endroits... enfin bref. Et d'autre part, la Cour dénonce que les effectifs recrutés ne sauraient être justifiés par ce fait. Hein, ça répond toujours à vos accusations, vous nous avez transféré, personnel, malade... La Cour dit non, c'est pas vrai. Si. Elle dit, page 35, écoutez, monsieur, je cite sa phrase. Cela démontre, d'une part, que les conditions de travail, ça c'est moi, celles ne sont pas bonnes, et d'autre part, la Cour dénonce que les effectifs recrutés ne sauraient être justifiés par ce fait. La Chambre, par ce fait donc de ces fameuses incompétences dont vous avez accablé certains des fonctionnaires, la Chambre évalue les recrutements nets hors transfert à 52 postes pour 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Vous avez recruté 52 agents supplémentaires en moins de 6 ans, presque 10 par an. Autrement dit, loin de conduire à des mutualisations ou des économies comme devaient le faire les intercommunalités, nous sommes ici en présence d'une collectivité qui réalise le même travail que les communes précédemment, mais pour un coût deux fois supérieur. Il est également question de la faible intégration communautaire, et ça vous nous l'avez souvent reproché. Voilà, pas d'intégration, c'est à cause de vous, c'est toujours été à cause de vous. D'ailleurs, hier, on avait la CCP, le RAO, là aussi, c'était la faute de Bolène. Deux représentants qui n'avaient pas le droit à la parole, un bilan catastrophique, une enquête ouverte par le procureur de la République pour corruption, mais c'est la faute de Bolène. Alors aujourd'hui, on revient aussi, vous nous l'avez dit, c'est la faute de Bolène. Ben non, c'est pas la faute de Bolène. Parce que cette faible intégration, vous l'avez eue, enfin, vous avez une intégration, et aujourd'hui, je vois qu'au fur et à mesure, chacun reprend sa compétence. On va encore voir aujourd'hui une délibération. Chacun reprend sa compétence, parce que ben, finalement, peut-être il n'y a pas la satisfaction attendue. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Je remercie la CCRLP de s'être penchée sur ce budget, sur ces budgets, sur cette gestion, parce qu'elle a clairement expliqué et dénoncer les failles de votre gestion et qui sont graves. Mais je pense que, comme je l'ai dit deux fois auparavant, tout le monde ici a bien pris connaissance, a bien lu le document, et c'est parfaitement de quoi je parle. Alors voilà, c'est un rapport cinglant pour vous. Ce rapport démontre vos fautes morales et politiques envers notre territoire et ses habitants, parce que je rappelle qu'avec une fiscalité comme vous l'avez, extrêmement importante, énorme, je rappelle le chiffre qu'on vous avait donné il y a quelques années, la deuxième du Vaucluse et la douzième de France. Eh bien, malgré ce, rien n'avance, et surtout, nous avons la population la plus pauvre du département, dans un département qui est le septième le plus pauvre de France. Alors, si vous trouvez satisfaction à tout ça, vous êtes hyper optimiste, mais j'ai peur que les faits soient têtus et qu'ils vous reviennent de plein fouet un de ces jours, avec encore plus de douleur que ce que ça l'est aujourd'hui. Bon, merci.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions, Monsieur Mossi?
Comme je le pense aussi, il est difficile d'intervenir brièvement sur le travail remarquable des magistrats, parce qu'il s'agit de magistrats, d'une juridiction financière, et je pense qu'il serait bon que tous les élus aient un document écrit des 60 pages de ce document. On l'a reçu 5 jours avant, c'est dur d'étudier ce type de document, il faut le lire au moins 2-3 fois avant de rentrer dedans. Bon, c'est vrai que je ne suis pas très doué en la matière, même si le règlement intérieur prévoit, en effet, qu'il y a 5 jours de délai pour recevoir ce document. C'est un rapport de qualité, comme tous les rapports que font les magistrats de la Cour des comptes. Et si on nous demande de débattre, ce n'est pas pour uniquement dire « on a débattu, point final, et l'acté ». Sinon, ça ne sert à rien, et c'est regrettable que des magistrats qui travaillent pendant plusieurs mois ne soient pas lus. Donc, pour ma part, quand je reçois un rapport de la Cour des comptes, j'en ai lu plusieurs. J'ai lu celui de la ville de Bolène aussi, il y a quelques années. J'ai lu celui du RAO, tout le monde le sait. Et j'ai lu celui de la communauté des communes. Alors, moi, déjà, je tiens à dire qu'un rapport de la Cour des comptes, c'est un peu comme quand un chef d'entreprise est audité. On est tous audités, les chefs d'entreprise, tous les ans par un commissaire aux comptes. Tous les 5 ans pour les coopératives, par une audite nationale, et on nous dit les points sensibles, les points de progrès et les points de sensibilisation Et l'intérêt, c'est d'en tenir compte. C'est pas de dire, on a débattu, on range le truc, personne ne l'a lu, c'est pas grave. Non, le but, si on donne des pistes de progrès, c'est d'écouter et d'essayer de les mettre en place. Alors, moi, je n'interviendrai pas sur les recettes et les dépenses. Il y a toujours des choses à améliorer. Bien sûr que j'ai retenu 40 000, 27 000 de la taxe de séjour. Bien sûr que j'ai retenu un tas de chiffres. Mais je les mets de côté et j'espère que ça servira du rapport de la Cour des comptes pour rectifier les choses. Moi, je m'attacherai qu'à deux points. Deux points qui, pour moi, paraissent essentiels, qui ne sont pas nouveaux. Mais maintenant, ça sera un peu ma ligne de conduite ici, puisque je ne sais pas bien où je suis, entre guillemets, et qu'on parle peu, qu'on débat peu dans cette assemblée, ce qui m'étonne, ce qui m'a surpris depuis 14 mois. Bon, c'est pareil ailleurs, on me dit c'est vrai. Mais moi, ça ne me satisfait pas. Alors, la première chose que je retiens, c'est qu'on nous dit plusieurs fois, et ce mot, Madame Bompard ne l'a pas relevé, certainement qu'on n'a pas la même sensibilité, c'est ça fonctionne comme un guichet. C'est exactement le débat qu'on a eu au mois de juillet. C'est une auberge espagnole, on y trouve ce qu'on y apporte. Si on n'y apporte rien, on n'y trouve pas grand-chose. Alors, on rentre, on sort des biens, on rentre des biens, on ressort des biens une fois qu'ils ont été construits, on rentre des services, on sort des services. Puis, conséquence plus grave, on rentre des agents, on sort des agents. Parce que moi aussi, j'ai une oreille un petit peu sensible et j'entends ce que me disent certains agents. Ils me disent, on ne sait plus où on est. Et là, j'arrive. Alors, c'est très dur, il faut se mettre à la place des gens et des agents, c'est très dur d'organiser les choses financièrement, comptablement et humainement quand on rentre et on sort. C'est-à-dire que si on n'a pas une stratégie, entre guillemets, d'entreprise, on va dire de communauté commune, difficile de faire fonctionner au niveau humain. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est les pages 34, 35, 36 du rapport. Parce qu'elles disent quoi? Et moi, ça, c'est des points qui m'intéressent en tant qu'ancien chef d'entreprise. On est dans la gestion de l'humain. Et qu'est-ce que la valeur d'une entreprise? Qu'est-ce qu'on a tous appris, les chefs d'entreprise? La valeur d'une entreprise, c'est le capital humain. C'est pas le matériel, c'est pas le fric qu'on a sur le compte, c'est le capital humain. Et dans une communauté commune, c'est pareil. Le capital, c'est les élus, mais pas que les élus, le personnel. Or, que disent les magistrats de la Chambre? Ils relèvent un taux d'absentéisme anormal. Anormalement élevé. Soit l'équivalent de 28 temps plein sur 100 et quelques équivalents temps plein. Soit, en 2019, 20% d'absentéisme quand le taux d'absentéisme national est de 10%, deux fois plus. Alors, même si on n'est pas très doué en maths, on voit de suite que ça représente à peu près 1 million d'euros par an. L'absentéisme, ça a un coût. Et pourquoi les chefs d'entreprise luttent contre l'absentéisme en facilitant le travail de leur personnel? C'est parce qu'ils savent que ça coûte. C'est une dépense énorme. Vous avez 5 millions d'euros de charges de personnel, vous en avez 1 million en absentéisme, si on caricature. Salaire moyen, 39 000 euros. Mais depuis agent, faites le compte, ça fait 1 million d'euros. Faites-le autrement, 5 millions d'euros, 20%, 1 million 100. Donc, on ne peut pas ne pas relever ce chiffre. Et il doit interpeller les élus que nous sommes. Alors, comme j'ai dit, ça enchaîne des coûts financiers annuels. Mais qu'est-ce que ça traduit? L'absentéisme, ça traduit une chose simple. N'importe qui a fait un peu de management du personnel le sait. C'est du mal-être. C'est des risques psychosociaux. Et je sais qu'il y en a eu. Qui sont souvent importants. Et ça soulève un certain nombre de questions. Est-ce qu'on anticipe les changements dans cette communauté des communes? Est-ce qu'on associe le personnel? Est-ce qu'on associe les organismes paritaires? Est-ce qu'on associe le personnel au changement? Tout chef d'entreprise a compris que ce n'est pas lui qui décidait seul, c'était le personnel qui suivait. Qui connaît mieux son poste que la personne qui est au poste? qui est le plus habilité à modifier son poste que celui qui est en poste. Alors, bien sûr, dans un cadre administratif et politique, mais qui est mieux placé que le salarié pour savoir comment faire évoluer son poste ? Est-ce qu'on tient compte de ce que dit le personnel ? Est-ce que, quand on transfère les compétences, on accompagne notre personnel ? Est-ce qu'on a un plan de formation validé par le personnel ? Est-ce que le personnel est associé au plan de formation ? Et c'est un chef d'entreprise qui vous dit ça, un sale patron, pendant 28 ans. Tout laisse à penser que cet absentéisme traduit un besoin de changer ou de revoir l'organisation. Parce que vous allez vite comprendre, c'est un vieux cours qu'on m'a donné, on peut changer les organisations, on ne change jamais les personnes. Et heureusement, parce que sinon ça serait du fascisme. Donc on doit, quand ça ne fonctionne pas, se poser la question pourquoi l'organisation ne marche pas, mais pas vouloir changer les gens, pas dire ils ne valent rien ou je ne sais quoi. C'est des mots que je ne supporte pas. Est-ce que les dirigeants, les responsables administratifs, ont fait ce qu'on fait quand on fait des fusions-absorptions ? On reçoit le personnel, on dit au DRH, recevez le personnel, voyez les appétences du salarié et ses compétences. Et faites au mieux. Parce que c'est du business, entre guillemets. C'est-à-dire que si je connais les appétences du salarié, si je connais ses compétences, ben, il travaillera mieux. Donc le temps perdu est du temps gagné. Est-ce qu'il y a une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ? C'est-à-dire, est-ce qu'au niveau du DRH, alors je ne mets pas en cause le DRH, est-ce qu'il y a une volonté de mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On va faire ça, voilà comment on va y aller, voilà la formation que vous voulez recevoir. Est-ce que vous adhérez au projet ? Si vous adhérez pas, vous allez voir, ça ne marche jamais. Vous avez intérêt de vous plier, sinon vous irez dehors, ça ne marche jamais. Encore une fois, quelle marge d'initiative est donnée au personnel ? Est-ce que les instances paritaires sont associées ? Monsieur Perron, ne marmonnez pas, parlez clairement, c'est plus simple. Si vous avez quelque chose à dire, vous le dites. Et vous marmonnez et on ne comprend pas ce que vous dites. Donc quand vous exprimez, exprimez-vous clairement et à haute voix. Ça me gêne.
Messieurs,
ça me gêne.
S'il vous plaît, et s'il vous plaît, monsieur Moussi, vous avez la parole, si vous voulez bien
continuer. Merci, président, j'aimerais que...
S'il vous plaît, messieurs.
Mais je ne veux pas votre place, je veux juste que quand je m'exprime, je puisse m'exprimer, ou alors il n'y a pas débat.
S'il vous plaît.
Voilà.
Allez-y, je vous en prie.
Si vous décapitez les gens, on l'a fait pour le 14 21 janvier 91, si vous voulez recommencer, il faut le faire. On est où, là ? On est à la République. Et en République, les élus ont le droit de s'exprimer, et pas que les élus d'ailleurs. Alors c'est pas la peine après de parler de SIC ou de référendum, si déjà les élus ne peuvent pas débattre. Hein. Voilà. Écoutez, président, c'est comme ça que j'en ai terminé. Je pense qu'il y a un malaise au niveau du personnel, que cet absentéisme, je pense que vous y êtes sensible, et qu'il convient de voir comment on peut diminuer l'absentéisme. Si on le diminue de moitié, c'est 500 000 euros. C'est la non-augmentation de la cantine. Voilà, j'ai terminé.
Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Bon, je vais vous répondre. Je ne suis pas surpris de l'attitude politicienne de l'ancien maire de Bolène sur cette position-là, puisque finalement, en portant cette responsabilité de blocage sur notre territoire, finalement, vous vous réjouissez aujourd'hui de ne pas avoir vu le territoire avancer. Les masques tombent parce que votre analyse n'est pas la bonne, madame, et la Chambre vous désavoue, et je vais la reprendre point par point. D'abord, elle dit très clairement que vous avez fait perdre de l'argent aux Bolénois, et nous avons perdu beaucoup de temps. Ce rapport, qui est un travail très sérieux, et je répondrai aussi à M. Mossi, c'est un travail très sérieux qui a épluché la totalité des comptes, une analyse très détaillée qui a été conduite par un magistrat de la Cour des comptes que j'ai moi-même reçu ici à Rennes-Provence au démarrage des travaux de contrôle qui ont duré 18 mois. Et je veux profiter d'ailleurs de cette séance pour saluer publiquement à la fois la Direction Générale des Services et la Direction des Finances qui ont fait un travail colossal pour réunir ce millier passé de factures, etc. C'est un excellent rapport de notre gestion qui est saine, et d'ailleurs la Chambre régionale des comptes le dit, et je crois qu'il est important de venir le préciser, parce que je crois que certains ont pris l'habitude, avec peu de savon, de faire beaucoup de mousse, mais même avec peu de savon, il est difficile de faire énormément de mousse. Par contre, je crois qu'ici, nous avons pu montrer qu'au-delà de nos sensibilités politiques et au-delà de cette majorité plurielle à l'intercommunalité, nous avons fait avancer notre territoire de ce qu'il était en 2014 et de ce qu'il est aujourd'hui. Et malgré, d'ailleurs, le blocage systématique de la commune de Bolène, qui, au-delà du temps perdu, et d'ailleurs, Madame Mouvant, qui a rédigé ce rapport, le précise très clairement à plusieurs reprises, a fait faire en sorte qu'il y avait beaucoup de temps perdu à la fois pour nos administrés, nos entreprises, et que notre territoire, et tout le monde est unanime d'ailleurs pour le dire, avec cet alignement de la ville-centre et de la communauté de communes, redevient attractif et se développe fortement. Et là, il est essentiel, Madame, vous étiez triste de me voir à cette place, je suis très heureux de ne plus vous voir en mairie de Bolène. En ce qui concerne les trois points qui sont importants, c'est à la fois le blocage, parce que c'est un point qui est majeur, qui revient sur l'ensemble des sujets, et qui est d'ailleurs lié à la commission locale d'évaluation des charges transférées, et j'en dirai quelques mots, puisque le document qu'on vous a écrit et que vous avez lu ne reflète pas la réalité du rapport de la Chambre régionale des comptes, comme vous l'avez dit vous-même. C'est une interprétation que vous avez lue et que vous avez faite. En ce qui concerne sur l'aspect financier aux communes, qui est très important, et je vais montrer la démonstration sur la ZAC Pan-Europarc d'ailleurs, que l'intérêt des Bolénois ne vous sert que lorsque vous êtes dans l'opposition, mais quand vous êtes en responsabilité, ça ne vous dérange pas de le faire payer plusieurs fois. Je reviendrai sur les charges de personnel, bien évidemment. Je reviendrai aussi sur ce qui a fait qu'à un moment donné, nous avons dû faire des choix qui ont, par la force des choses et par, finalement, le choix souverain du maire, et là, c'est la loi, M. Mossi, sur le fait que le législateur a laissé à l'appréciation du maire le transfert du personnel, et que c'est au maire de décider du personnel. On a d'ailleurs retrouvé un directeur de l'Office de tourisme qui, quelques mois avant de l'être, ne l'était pas et ne l'a jamais été. Et tout cela pour vous dire à quel point, de la mauvaise foi, on le savait, mais de la malhonnêteté de certains autour de cette table. Oui, malhonnêteté, parce que quand on sait et qu'on dit le contraire, ça s'appelle de la malhonnêteté. Alors, en ce qui ressort de ces points, je veux venir préciser que si j'avais lu dans le rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes sur l'exercice bolénois de 2012 à 2018, 16 observations et une recommandation, le rapport de la Chambre régionale des comptes de l'intercommunalité possède aucune observation et simplement deux recommandations. La première qui est liée sur le fait que la ville de Bolène n'avait pas formalisé les procès-verbaux de mise à disposition de biens et que par conséquent, le transfert des biens ne pouvait pas avoir lieu. C'est la première recommandation et c'est important, madame, taisez-vous. Vous n'avez pas la parole, donc vous vous taisez. Bon, je sais que c'est difficile pour vous, mais... Bon, en ce qui concerne le fait du rapport social unique, c'est la deuxième recommandation, qui n'a donc pas été fait en 2015 et en 2017. Ce rapport social unique, je veux juste le préciser, parce que j'ai lu d'autres rapports, d'ailleurs vous étiez cité sans être élu de la ville d'Orange, et où d'ailleurs il y avait d'autres, à mon avis, dérives que celles que vous venez de citer, puisqu'on va parler des dérives de charges de personnel, et je vais vite vous expliquer pourquoi, mais je crois que vous le savez, vous ne voulez simplement pas l'avouer. En ce qui concerne sur ces deux rapports sociaux uniques, et nous reviendrons sur ce rapport si vous souhaitez en discuter plus amplement tout à l'heure, puisque je l'ai ressorti, donc ce sera l'occasion d'en discuter, sur 2015 et 2017, qui des rapports sociaux qui n'ont pas été faits, cela n'a pas d'impact à la fois sur la gestion financière de la collectivité, ni même sur l'organisation budgétaire de la collectivité, puisqu'il s'agit d'une disposition de la loi qui vient préciser le rapport social. Rapport social, d'ailleurs, qui a été régularisé en 2019, en 2020 et les années suivantes, et qui, dans la fin de la période observée, n'a pas entraîné d'irrégularité. Vous évoquez à plusieurs titres certains points, et je veux ici répondre à chaque point que vous venez d'évoquer. D'abord, la ville de Bolène a systématiquement, lorsqu'elle en a eu l'occasion, et c'est pas moi qui le précise, puisque nous aurons l'occasion de dégrainer l'ensemble du rapport, bloqué le transfert des compétences. Vous parliez du SCOT, vous aviez refusé l'adhésion au SCOT, vous parlez du syndicat des déchets, vous avez refusé de faire des économies en adhérant au CIP, vous parlez de l'aire d'accueil des gens du voyage, vous avez refusé de faire adhérer à un syndicat de gestion, et vous avez... par deux fois amener la collectivité, c'est-à-dire le contribuable bolénois qui a payé deux fois à la fois les frais d'avocat de l'Interco et les frais de l'avocat de la ville, au tourisme pour récupérer un point infotourisme, dont il a fallu mandater encore une fois la juridiction pour récupérer les clés pour que vous puissiez en disposer, madame. Et si vous voulez, je peux ressortir le jugement qui vous a condamné. En ce qui concerne ce blocage, ça nous a permis de revoir les compétences. Parce que je vous rappelle que la loi NOTRe, et c'est pour ça que les honoraires sont si importants, parce que je me défausse sur aucun sujet. Le fait qu'à un moment donné, sur la disposition filée de la loi NOTRe qui considérait, peut-être que vous ne l'avez pas en tête, mais je veux quand même la préciser, qu'il faut trois compétences optionnelles au moment de la loi, et que nous n'avons que deux. Et que le législateur, et c'était à l'époque le rapporteur du SOPT, qui était d'ailleurs rapporteur de la loi NOTRe à l'époque, sous le président Hollande, qui avait proposé cette loi pour faire en sorte qu'il puisse y avoir une régularisation par la loi du fait des communautés de communes qui ne sont pas en règle avec la loi. Et donc, nous avons dû prendre soit une compétence dans le paquet des optionnels, soit la totalité du groupe des neuf. Et, madame, ne me dites pas le contraire, vous ne faisiez pas beaucoup d'entrain à avoir des compétences transférées à l'intercommunalité. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous qui l'avez dit partout, vous avez pu le dire dans la presse et autres. Et il a fallu, en responsabilité, prévoir le transfert au 31 décembre de l'année qui suivait, le transfert des compétences qui concernaient à la fois le Centre intercommunal d'action sociale, toute une série de compétences. Et nous avons donc missionné, à ma demande, et je l'assume pleinement, pour ne pas être en carafe si vous ne souhaitiez pas transférer la troisième, la prise de compétences des neuf. Alors à travers à la fois le bureau KPMG, dont on a l'ensemble des rapports, il ne s'agit pas d'avoir... dépenser de l'argent pour rien, mais on a des rapports qui viennent préciser le transfert de ces compétences jusqu'au jour où, voyant que vous alliez perdre 9 compétences, vous vous êtes un petit peu interpellé sur le fait de laisser peut-être une compétence sur les 9, à savoir les équipements élémentaires, préélémentaires, scolaires et les équipements sportifs et culturels. C'était là une compétence qui permettait justement de passer dans cette disposition filée là-dessus. Et donc, ça nous a obligés, ce blocage nous a obligés à revoir les compétences de notre collectivité et le rôle de banque et de guichet qu'évoquait M. Mossi, que je regrette très fortement, mais qui a joué CCRLP auprès des communes durant les années précédentes. Et puis, les communes s'en sont satisfaites parce que ça correspondait à ce qu'elle souhaitait faire, c'est-à-dire d'avoir une collectivité qui est un assistant, un maître d'ouvrage ou une banque de territoire au service de projets de maître d'ouvrage qui était la commune, puisque nous avons aujourd'hui revu cela et je veux en dire quelques mots, notamment sur les dispositions que nous avons fait. Alors, blocage sur la décision du syndicat des ports de Provence, dont il est écrit clairement que cela aurait permis de faire des économies, l'adhésion au SCOT que vous reprochez, Madame Calero, et dont le PLU, bien sûr, que les communes en font opposition, et je suis le premier à dire qu'il ne faut pas que le PLU de la ville de Bolène soit transféré à la communauté de communes, comme je suis le premier à dire que les questions d'urbanisme ne peuvent être étudiées sur un périmètre de SCOT ou au-delà, parce qu'il est important que les maires, lorsqu'ils voudront demain ouvrir une boulangerie au coin de la rue, puisque la réforme du SCOT, c'est quand même ça, ils puissent le décider, plutôt que ce soit le président du SCOT, en l'occurrence le président actuel, maire de Montélimar, qui décide si on peut ouvrir au coin de la rue une boulangerie ou pas, parce que ce n'était pas prévu dans le SCOT et ce n'était pas prévu dans le PLU. Et c'est d'ailleurs pour ça que je milite et je profite de cette prise en public, pour dire, comme je l'ai dit encore tout à l'heure au maire de Pierrelatte, que je suis pour une sectorisation du SCOT, c'est-à-dire que, et je n'ai jamais changé d'avis là-dessus, pour que les présidents de PCI puissent disposer de pouvoir de signature sur les dispositions du SCOT, afin que chacun des maires du territoire puisse dire « j'ai envie d'ouvrir un peu l'urbanisation, etc. » Parce que je le redis, et je l'ai toujours dit, et vous ne pouvez pas me dire que je ne l'ai jamais dit, quand notre SCOT devra demain ouvrir 180 hectares au développement économique, j'ai pas envie d'en voir 160 à Montélimar et 20 sur le reste du territoire. C'est là le sens de la sectorisation que j'appelle de mes voeux et que j'appelle de mes voeux à chaque réunion de bureau du SCOT, parce que je crois qu'il est important de l'inscrire dans les statuts. Donc, sur la question, j'ai pas fini, sur l'adhésion du CIP, vous aurez l'occasion de vous exprimer, sur l'adhésion du SCOT, je l'ai précisé tout à l'heure, sur la question du tourisme et notamment sur le transfert des équipements, ben, le blocage, c'est le juge qui l'a acté, donc je veux dire par là qu'il n'y a pas plus... Il n'y a pas plus clair. Et puis, sur l'adhésion à l'aire d'accueil des gens du voyage par ce syndicat que vous avez refusé également. Et puis, il y a un autre aspect qui est important dans ce rapport de la Chambre régionale des comptes, c'est la mise en évidence qu'aucune commune n'a été lésée. Et au contraire, que la commune de Bolène, dans le cadre de chaque transfert de charges, a permis à chacune des communes de gagner de l'argent. Et c'est bien parce que, et vous faites bien de le souligner, Monsieur Mossy, parce que il est quand même important de le dire. Alors, ça vaut principalement pour la commune de Bolène, parce que aujourd'hui, l'ensemble des compétences exercées par la commune lorsqu'il a été transféré a coûté plus cher à l'intercommunalité en gestion que ce qui avait été évalué, parce que tout simplement, la commission locale d'évaluation des charges transférées, donc je rappelle quand même qu'il a fallu, après votre départ, chère madame, délibérer pour faire en sorte d'acter des points financiers, tant que vous étiez opposé sur des sujets, pour certains, vous avez fait des décisions plus rapides, donc je ne veux pas croire que vous ne connaissiez pas, je pense à l'aire d'accueil des gens du voyage, je crois qu'on vous l'a dit une fois et le lendemain on délibérait, mais pour d'autres, vous avez été un peu plus sourde à nos interpellations, et on aurait pu porter des projets d'ambition et des projets à logique intercommunale plutôt que des logiques de tiroir et de guichet comme vous venez de l'évoquer. En ce qui concerne, et là, madame, sur le fait que vous ayez sous-évalué des dépenses pour faire en sorte que la commission locale d'évaluation des charges transférées, dont vous m'accusiez il n'y a pas très longtemps, mais on le retrouvera dans la bande de son, puisqu'en début de séance, vous disiez qu'il vous arrangeait bien, je veux juste préciser à tous ceux qui nous regardent et à tous ceux qui nous écoutent que je n'étais pas membre de la commission locale d'évaluation des charges transférées, je n'en étais même pas le président, puisque les membres de la commission locale d'évaluation des charges transférées sont nommés par chaque conseil municipal sur proposition du maire, et que par conséquent, je n'étais pas membre de cette commission locale d'évaluation des charges transférées, je n'assistais pas au débat de la commission locale d'évaluation des charges transférées, et en ce qui concerne Bolène, c'était Madame Lavallée et Monsieur Morand, madame. Donc je veux bien prendre mes responsabilités sur certains sujets, mais sur celui-là, je n'y étais pas, et donc l'évaluation des charges a été faite au bénéfice des communes, sur le dos du contribuable, et j'ai pas peur de le dire, sur le dos du contribuable, parce que aujourd'hui nous avons 3,5 millions d'euros, madame, c'est dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, entre 2018 et 2019, sur les équipements scolaires et sportifs, qui ont été pris sur fonds propres de l'intercommunalité pour financer sans contrepartie des communes membres ces équipements-là. C'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de la Chambre régionale des comptes, et nous avons fait en plus chez vous qu'ailleurs, parce que mauvaise gestionnaire jusqu'au bout, vous l'avez été, la piscine et les écoles, il a fallu faire ce que vous n'avez jamais fait en 12 ans, et nous l'avons fait en moins de 12 mois, ce que vous n'avez jamais fait en 12 ans. Sur la question de la ZAC, c'est assez intéressant, parce que sur la ZAC, on pourrait en parler pendant longtemps, mais sur la page 13, d'ailleurs, la Chambre régionale des comptes vient de rappeler un peu à l'ordre ce sur quoi vous nous avez toujours dit. Vous vous rappelez, vous disiez que toutes les zones d'activité étaient de la compétence de l'intercommunalité. Alors, je ne savais pas que vous ne maîtrisiez pas assez vos dossiers jusque-là, mais il n'y avait qu'une seule zone sur 16 qui avait été transférée. C'est le deuxième paragraphe de la page 13 du rapport de la Chambre régionale des comptes. À ce stade, la Chambre relève que le transfert des compétences des seules zones considérées comme d'intérêt communautaire a fortement limité de l'action de la CCRLP dans ce domaine, les communes ne lui ayant confié qu'une seule zone sur 16. Et vous voyez, vous vous souvenez, vous disiez partout, oh là là, mais pourquoi vous ne gérez pas les autres? Parce que franchement, eh bien on ne les gérait pas. Et ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est la Chambre régionale des comptes. Et je vais même aller plus loin sur la ZAC. Vous savez, cette fameuse ZAC, vous m'avez envoyé un huissier de Carpentras qui est venu jusque dans mon bureau pour me sommer de venir signer chez le notaire ce que je n'ai jamais signé, ce que je n'ai toujours pas signé d'ailleurs. Parce que, d'ailleurs, preuve s'il en est, on parlera des frais d'honoraires, mais à chaque fois que vous aviez eu la bonne idée, soit de convoquer, parce qu'il y a quand même eu des professions en mairie de Bolène qui ont été beaucoup plus glorieuses que d'autres, avec 3 millions de frais d'avocat en 12 ans, je crois que là, vous ne parlez pas, mais vous pourrez le vérifier, c'est vérifiable, je crois que là, vous vous souciez pas de l'argent du contribuable quand il s'agit de mettre 3 millions pour payer des cabinets d'avocats. Il y a une estimation à 1,8 million sur la ZAC, Panreparc. Et la Chambre souligne que du fait de cette transaction, la ville de